VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Jacques Aristide en votre compagnie. Très content de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce lundi 14 mai 2018. Réprobation mondiale après l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem. Des dizaines de Palestiniens tués par les tirs israéliens dans la bande de Gaza.
And we extend a hand in friendship to Israel, the Palestinians, and to all of their neighbors. May there be peace.
Le président Trump qui dit prônez la paix. Procès de djihadistes au Sénégal, perpétuité requise contre 11 prévenus. Feu vert à l'OMS pour utiliser un vaccin contre Ebola en RDC. Dans la partie magazine, gros plan sur la fin de la campagne pour le référendum constitutionnel au Burundi.
J'ai vu que le nom a eu beaucoup de soutien, malgré la peur, l'intimidation.
Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Actualité oblige, nous commençons avec l'ouverture cet après-midi en Israël de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Selon des responsables palestiniens, au moins 52 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza par des tirs de soldats israéliens à la frontière. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre le transfert de cette ambassade. Dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie d'inauguration en présence de centaines de responsables américains et israéliens, le président américain Donald Trump assure que les États-Unis restent pleinement engagés dans la recherche d'un accord de paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Le point avec John Linden.
Aujourd'hui, nous inaugurons officiellement l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Félicitations.
C'est par ces paroles prononcées à travers une vidéo que le président américain a officiellement annoncé l'ouverture à Jérusalem de la nouvelle ambassade des États-Unis en Israël. Il s'agit là de la réalisation d'une promesse du président Donald Trump. La cérémonie d'inauguration en elle-même s'est déroulée en présence de centaines de responsables israéliens et américains, dont Ivanka Trump et Jared Kushner, la fille et le gendre, mais aussi conseiller du président américain. Le président des États-Unis a toutefois assuré que son pays resterait pleinement engagé dans la recherche d'un accord de paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Cette inauguration a suscité la réprobation internationale et l'indignation palestinienne. À Gaza, des milliers de Palestiniens ont manifesté leur colère. Plusieurs dizaines ont par ailleurs été tués par des tirs israéliens. Saluée comme historique en Israël, cette inauguration est largement perçue comme un acte de défi envers la communauté internationale dans une période d'inquiétude pour la stabilité régionale.
Une ouverture qui a provoqué une multitude de réactions à travers le monde. Un résumé avec Yacouba Ouedraogo.
L'Union européenne a mis en garde contre toute nouvelle escalade qui rendrait les perspectives de paix encore plus éloignées. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a rappelé que le transfert des ambassades ne pourra pas advenir avant que le statut de Jérusalem ne soit réglé. Cependant, la République tchèque, la Hongrie et la Roumanie ont récemment bloqué l'adoption d'une déclaration européenne critiquant le transfert de l'ambassade américaine. Le Royaume-Uni a appelé à la retenue, ajoutant que Londres reste engagé dans la solution des deux États avec Jérusalem comme capitale commune. Amnesty International a dénoncé une violation des droits de l'homme et des crimes de guerre à Gaza. Human Rights Watch, pour sa part, a condamné la politique israélienne consistant à ouvrir systématiquement le feu. Le Koweït envisage de demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur les événements à Gaza.
Comment les Israéliens eux-mêmes ont-ils accueilli de manière générale le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem? Idriss Fall a posé la question à la journaliste Aura Zilberg à Jérusalem.
Grande satisfaction, je crois que c'est la réaction qui résume le mieux. Un événement qui était évidemment annoncé depuis le mois de décembre dernier par le président Trump et attendu dans sa réalisation finalement, qui est venu relativement rapidement, toute proportion gardée, comme étant justement pour les Israéliens finalement une sorte de constat de réalité. Le monde entier sait que Jérusalem est la capitale administrative de l'État d'Israël. Ils attendaient qu'au moins un pays et de préférence une grande puissance reconnaissent aussi cette réalité. Donc c'est un peu l'atmosphère qui prévaut après cette inauguration.
Est-ce qu'il y a d'autres ambassades qui sont présentes à Jérusalem?
Pas encore, mais justement, on peut dire que les États-Unis ont donné le coup d'envoi. 24 heures après, donc, ce sera au tour du Guatemala de rouvrir son ambassade à Jérusalem. Même chose pour le Paraguay qui va aussi ouvrir sa représentation diplomatique à Jérusalem d'ici quelques jours.
Une réaction en Afrique également. Oumar Niang est un Sénégalais qui a longtemps vécu en Israël. Nous l'écoutons.
L'ouverture de cette ambassade à Jérusalem va un peu plus compliquer la situation. Selon les résolutions onusiennes, ça ne devait pas se faire. Mais M. Trump l'a fait. Les Palestiniens ne vont jamais cautionner cela. Parce que eux, ils considèrent que, par exemple, Jérusalem pourrait être leur capitale. Comme les Israéliens aussi prétendent que Jérusalem pourrait être aussi leur capitale. Et l'ONU veut que Jérusalem conserve son statut international. Tout cela mis ensemble va un peu plus compliquer la situation. Et l'autre chose qu'il faut remarquer aussi, c'est que les États-Unis, qui jouaient par exemple un rôle de médiation entre Israël et la Palestine, vont perdre par exemple beaucoup de leur crédibilité face aux Palestiniens. Donc le rôle de médiateur va poser beaucoup de problèmes. La première impression que ça donne.
Des propos recueillis par Idriss Fall.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des peines allant de 5 ans de prison à la réclusion à perpétuité ont été requises ce lundi à Dakar contre de présumés djihadistes poursuivis pour actes de terrorisme et qui, selon l'accusation, voulaient installer des bases arrières dans le sud du Sénégal pour déstabiliser la région. La peine maximale, les travaux forcés à perpétuité, a été requise à l'encontre de celui que le procureur Ali Siré Ndiaye a décrit comme l'idéologue du projet Maktar Diokané et contre 10 autres des 28 accusés, dont le procès placé sous haute sécurité a démarré le 9 avril dernier. Lors de son réquisitoire, le procureur a réclamé une peine de 30 ans de travaux forcés contre un imam de Kaolack célèbre au Sénégal, Aliou Ndao, qu'il a accusé d'être le coordonnateur du groupe. Il s'agit du plus important procès pour terrorisme au Sénégal par le nombre de prévenus qui compte 3 femmes parmi eux. Les plaidoiries sont prévues à partir de jeudi. L'opposition en Guinée a repris ce lundi ses manifestations pour réclamer une révision des résultats des élections locales du 4 février en organisant une journée ville morte à Conakry après l'échec d'un dialogue avec le pouvoir. L'opposition, qui avait manifesté en février et mars dernier avant d'accepter début avril de dialoguer avec le gouvernement du président Alpha Condé, remet la pression après avoir annoncé le 10 la suspension de ses pourparlers face au refus du pouvoir, selon elle, de trouver une solution au contentieux électoral. Au Mali, l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé s'est lancé dans la course présidentielle prévue le 29 juillet, au lendemain de la candidature du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. On attend désormais l'officialisation de celle du président Ibrahim Boubacar Keïta. Sa candidature a fait peu de doutes après sa désignation le 7 mai dernier comme candidat par une coalition de près de 70 partis. Au Congo-Brazzaville, la défense de Jean-Marie Michel Mokoko, principal opposant au président Denis Sassou Nguesso, va saisir les juridictions internationales contre la condamnation à 20 ans de prison du général pour atteinte à la sécurité de l'État. Bagassi Koura.
Selon ses avocats, l'ancien candidat à la présidentielle va faire un pourvoi en cassation de l'arrêt de la cour criminelle et portera l'affaire devant les instances internationales, la Commission africaine des droits de l'homme, puis le groupe de travail des Nations unies contre la détention arbitraire. La défense du général Mokoko, âgé de 71 ans, a de nouveau dénoncé, je cite, « la parodie de justice qui a conduit à la condamnation à 20 ans de prison de son client ». Ex-chef d'état-major, ex-conseiller du président Denis Sassou Nguesso, le général Mokoko avait été arrêté en juin 2016. Il avait refusé de reconnaître la réélection du président Sassou Nguesso. Les défenseurs des droits de l'homme ont dénoncé la décision de la cour criminelle de Brazzaville.
L'Organisation mondiale de la santé annonce lundi avoir reçu le feu vert de Kinshasa pour acheminer et utiliser un vaccin expérimental contre la fièvre hémorragique Ebola. L'épidémie a fait sa réapparition dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Marie Benson pour les détails.
39 cas d'Ebola ont été enregistrés et 19 morts entre le 4 avril et le 14 mai 2018. Selon le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, des vaccins vont être acheminés mercredi ou jeudi. Le directeur général de l'OMS qui s'est rendu en RDC a rencontré le président Joseph Kabila. Il a salué le fort leadership du gouvernement dans la réponse à l'épidémie et la bonne coordination avec les partenaires comme MSF et UNICEF. Depuis le 8 mai dernier, 393 personnes sont suivies par les services de santé pour avoir été en contact avec des victimes. 9 épidémies d'Ebola ont frappé la RDC depuis 1976, la dernière remonte à 2017, avait fait 4 morts. La fièvre hémorragique Ebola vient d'un virus qui se transmet par contact physique avec des liquides corporels infectés.
Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale là, ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
La Commission économique pour l'Afrique veut faire progresser la mise en place du marché commun régional et faire passer le commerce intra-africain de 16% à 52% d'ici à 2022. La zone de libre-échange continentale devra devenir un puissant outil de stimulation de l'industrialisation, de la diversification économique et du développement du continent. Pour y arriver, l'action la plus importante et la plus urgente consiste à créer l'espace fiscal pour favoriser les investissements publics et privés et assurer la création des emplois. Nouvelle augmentation du portefeuille de la BAD au Cameroun estimée à 680 milliards de francs CFA. Actuellement, l'enveloppe culmine à environ 800 milliards de francs CFA. Ces financements permettront de conduire 32 projets, principalement concentrés dans le secteur des infrastructures, et figurent aussi des projets d'intégration comme la construction de la route Bamenda-Enugu, reliant le Cameroun au Nigeria, et le pont sur le Logone, reliant le Cameroun au Tchad. Les concours de la BAD en faveur du Cameroun se sont multipliés par 4 en 4 ans. En Angola, le gouvernement veut privatiser totalement 74 entreprises publiques d'ici les prochaines années. Ce plan vise à long terme à réduire les interventions de l'État dans une économie fortement centralisée, les ports du pays, la compagnie aérienne nationale, la banque du commerce et l'industrie, et la compagnie d'assurance ENSA devrait figurer sur la liste. Le président João Lourenço veut redonner un second souffle à une économie longtemps dominée par les influences du système soviétique.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive, j'accueille Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Toko Ekambi, élu meilleur joueur africain de Ligue 1.
Et oui, l'attaquant camerounais d'Angers a remporté le prix MAP Vivien Foué du meilleur joueur africain du championnat de France. Il a dévancé le Tunisien de Rennes Wabi Kazri et le Burkinabé de Lyon Bertrand Traoré. Karl Toko Ekambi a inscrit 17 buts cette saison en Ligue 1, contribuant largement au maintien d'Angers dans l'élite. Il est le premier camerounais et le premier joueur d'Angers à remporter ce prix. L'attaquant camerounais succède ainsi au milieu de terrain ivoirien Jean-Michel Seri de l'OGC Nice, sacré l'année dernière.
Mondial 2018, la présélection de l'Égypte est connue.
Le sélectionneur des Pharaons Hector Cooper a dévoilé une préliste de 29 joueurs pour la préparation du Mondial 2018. À l'image de l'attaquant vedette Mohamed Salah, les cadres des Pharaons sont tous présents, avec le gardien vétéran Essam El Adari, 45 ans, les défenseurs centraux Ahmed Egazi et Ali Gabre et le milieu de terrain d'Arsenal Mohamed El Neni, actuellement convalescent, mais qui devrait être rétabli à temps pour le Mondial. Déjà connu, le forfait du gardien Ahmed El Shenawi permet à Sherif Ekrami de signer son retour en sélection. L'Égypte débutera son regroupement le 22 mai.
Le Nigeria a également dévoilé sa préliste.
Le sélectionneur Gernot Rohr a retenu 30 joueurs pour la préparation, pas de grosses surprises à signaler, avec Obi Mikel, Victor Moses, Iwobi ou encore Moussa. Tous les cadres sont là. On notera également la présence du Nantais, Awaziem et du meilleur buteur du championnat local, Junior Lokosa. Pour sa préparation, le Nigeria affrontera la RD Congo le 28 mai à Abuja, l'Angleterre à Wembley le 2 juin, puis la République tchèque le 6 juin en Autriche avant de s'envoler pour la Russie.
Et puis NBA pour finir, Yakuba, Boston a ramené Cleveland et LeBron James sur terre.
Cleveland et sa superstar LeBron James, facile vainqueur de Toronto au tour précédent, sont tombés de haut lors du premier match de la finale de la conférence Est, perdu à Boston sur le score sans appel de 108 à 83 sur sa planète depuis le début des playoffs avec une moyenne de 34,3 points par match. King James a passé une bien mauvaise soirée à Boston.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre transmagazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Dernier jour de la campagne pour le référendum constitutionnel au Burundi, le parti présidentiel qui veut que le oui l'emporte a organisé ce lundi un rassemblement au cercle hippique de Bujumbura, l'UPRONA du premier vice-président de la République, Gaston Sindimwo, était à Kamenge, au nord de la capitale, alors que le FNL Amizero I Abarundi s'est réuni à Gitega, pour appeler à voter non. Le vote est prévu pour jeudi prochain. De Bujumbura, le reportage de notre correspondant Christophe Kurunziza.
Le parti présidentiel à la tête duquel le secrétaire général Évariste Ndayishimiye a terminé sa campagne au cercle de Bujumbura, une foule nombreuse de militants dans leur tenue de l'aigle battait campagne pour le oui, de même que les sympathisants du parti de l'indépendance UPRONA qui s'étaient déplacés vers le quartier de Kamenge au nord de Bujumbura derrière le premier vice-président Gaston Sindimwo. Toutes ces deux formations politiques vantent les mérites du changement de la constitution qui avait été adopté en 2005 après des années de négociations. Ce jeune homme estime que le oui va gagner.
Apparemment, je vois qu'il y a le oui qui va passer, sincèrement, parce que je vois que il y a aussi le non qui n'est pas moindre, mais je crois que sûrement avec ce qu'on a préparé déjà, le oui va passer. Quoique il y aurait toujours des frustrations, comme au match de football, quand il y a des qui s'affrontent, il y a l'adversaire, il y a celui qui gagne, il y a celui qui perd. Donc il y a toujours un esprit de contestation, de frustration qui peut apparaître.
Agathon Gwasa, quant à lui, était au centre du Burundi, dans la province de Gitega, où ses sympathisants avaient répondu pour le non de la révision constitutionnelle. Ce trentenaire affirme qu'il a peur.
Ma réaction, c'est une réaction de crainte. Je crains que le comptage peut être truqué, parce que j'ai vu que le non a eu beaucoup de soutien. Malgré la peur, l'intimidation par les jeunes du parti au pouvoir. Oui, j'ai peur.
Cette femme affirme que le oui va l'emporter.
Si on vote non ou oui, le oui sera gagné à cause du parti politique qui est au pouvoir. On voit qu'il n'y a pas de démocratie au Burundi. C'est pourquoi, si on vote non, oui, c'est la gagne.
Pour le parti Front National de Libération, qui ne sera plus une coalition d'indépendants après l'adoption de la nouvelle constitution, la réforme constitutionnelle enterre définitivement les accords de paix et de réconciliation d'Arusha signés en 2000. Rappelons que plus de 26 personnes ont été tuées par un groupe armé vendredi dernier et 7 personnes blessées, selon le ministre de la Sécurité publique, Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Congo-Brazzaville, 23 membres du mouvement citoyen Ras-le-bol ont été arrêtés le 7 mai à Pointe-Noire et Brazzaville alors qu'ils menaient une campagne pour la libération des prisonniers politiques. Vendredi dernier, le général Jean-Marie Michel Mokoko a été condamné à 20 ans de prison. Amnesty International réclame la libération des militants interpellés. Raissa Girondin a joint Balkissa Idé Sido de cette ONG.
Amnesty International et d'autres organisations de la société civile, notamment la campagne Tournons la page et Frontline Defenders, demandent aux autorités congolaises de libérer immédiatement et sans condition les 25 activistes qui ont été arbitrairement arrêtés. Donc ces activistes n'auraient jamais dû être arrêtés déjà, et cette détention, nous pensons, nous la qualifions d'arbitraire parce qu'ils n'ont fait que manifester leur droit à la liberté de manifester pacifiquement.
Comment s'organise leur défense ?
Les avocats sont au pied d'œuvre, les organisations de la société civile aussi sont en train de faire du plaidoyer en demandant aux autorités de les libérer, en demandant aussi à la communauté internationale qui malheureusement est restée assez silencieuse sur cette situation de droits humains qui perdure au Congo-Brazzaville.
Au-delà des activistes, il y a au moins 10 leaders et membres de partis d'opposition qui sont détenus pour incitation aux troubles à l'ordre public. Pour leur cas, qu'est-ce qu'Amnesty International peut faire ?
Cela fait déjà bien avant le référendum, pendant les élections présidentielles. Il y a eu plusieurs vagues d'arrestations. Il y a des dizaines de personnes qui couprissent en prison jusqu'à présent. Et nous avons vraiment peur que ces activistes-là, leur cas ne soit négligé, qu'ils ne restent en fait en prison pendant longtemps en attendant qu'il y ait un procès. Et nous avons peur que ce ne soit le cas pour ces activistes-là. Donc nous demandons vraiment aux autorités congolaises d'intervenir et de faire en sorte que normalement ils doivent être libérés, sans condition, parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Si les autorités veulent en fait continuer dans cette logique-là, qu'ils les transmettent juste devant un tribunal civil qui pourra rapidement les juger, afin qu'ils puissent savoir déjà quel est leur sort et que nous puissions nous organiser pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du plaidoyer auprès des personnes indiquées pour qu'ils soient libérés.
Connaît-on leurs conditions de détention ?
Non, ils sont détenus au niveau de la Direction générale de la surveillance du territoire, qui, nous savons, n'est pas accessible à tout le monde. Donc, très souvent, l'accès est limité. Mais de manière générale, on sait que les conditions de détention au Congo-Brazzaville ne sont pas bien, donc ce sont des conditions assez déplorables.
Quel est aujourd'hui votre appel à la communauté internationale ?
Nous constatons qu'elle est assez inerte quand il s'agit de certains pays, dont le Congo-Brazzaville. Donc, il est impératif que la communauté internationale intervienne. Et la communauté internationale a le devoir d'intervenir parce qu'elle a également des obligations en ce qui concerne le respect des droits humains.
On écoutait Balki Saïdé Sido d'Amnesty International. Elle était en ligne de Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Une zone économique spéciale entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est ce qu'ont lancé aujourd'hui les premiers ministres de ces trois États à Sikasso au Mali. Cette zone, que certains appellent le triangle du Balafon, couvre la zone entre Korogo, Bobo-Dioulasso et Sikasso. Elle a pour but d'améliorer la coopération économique dans la région. Bagassi Koura a joint le maire de Bobo-Dioulasso, Bourama Sanou, qui pour l'occasion s'est rendu à Sikasso.
Cette zone, déjà que nous appelons Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo, elle faut dire que c'est une zone économique et culturelle depuis très longtemps. Et depuis un certain temps, nous, la collectivité territoriale, nous avions essayé de nous rapprocher dans le cadre de la coopération décentralisée avec l'appui de certains partenaires, peut-être moi. En tout cas, les échanges à ces frontières-là, en se basant sur un nombre d'activités dans cet espace-là, en essayant de nous appliquer et nous appuyer sur le dispositif de l'Union monétaire africaine.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que ça veut dire que les démarches vont être plus allégées dans cette partie de ces pays-là que dans le reste de ces pays ?
Non, en fait, ce qui vient d'être lancé aujourd'hui, nous estimons que, en fait, ça n'est pas nouveau pour nous, les collectivités territoriales. Nous allons dire tout simplement, ça, c'est un accord au niveau des trois États, au niveau du gouvernement. Alors, depuis très longtemps, bien sûr, dans le cadre de l'UMOA, il est dit que, en principe, ça devrait faciliter la circulation, la libre circulation des personnes et des biens. Mais, malheureusement, nous, les collectivités, au niveau de la base, nous avions senti que ce n'était pas réel. Du reste, c'est ça que nous sommes impliqués en nous approchant à la coopération décentralisée, comme je l'ai dit, même à créer, avant ça, nous avions créé ce que nous avons appelé l'Union transfrontalière des collectivités territoriales, qui regroupe des collectivités du Burkina, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, c'est un lancement. Nous espérons que ça va être un appui, un engagement réel, et pas pour nous accompagner. Sinon, c'est dire que, bon, pour nous, ce n'est vraiment pas nouveau.
Oui, ce n'est pas nouveau, mais s'il y a un commerçant qui est à Bobo-Dioulasso qui suit tout ça, qu'est-ce qui va changer dans sa vie s'il doit se rendre à Sikasso et à Korogo?
Alors, c'est pour mettre en place des infrastructures structurantes, c'est-à-dire qui vont venir en appui à la production, en appui à l'économie locale, la réalisation de ces infrastructures, qui, par exemple les routes, les infrastructures telles que la régionalisation des secteurs d'aéroports, l'aéroport de Bobo peut-être, de Sikasso, je sais. Alors, ça va permettre aux commerçants, aux entreprises de bénéficier d'un cadre focus et de moyens en appui à la production et à la commercialisation de pouvoir mieux se mouvoir, de pouvoir mieux exploiter leur activité. C'est comme ça que je vois ça.
Bouraïma Sanou, le maire de Bobo-Dioulasso.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et nous partons pour le Sénégal à présent. Eh bien, la Biennale de Dakar, appelée également Dakart, est l'une des principales manifestations d'art contemporain africain, a consacré exclusivement sa sélection aux artistes africains. Instituée par l'État du Sénégal depuis 1989, c'est la plus ancienne biennale de ce genre sur le continent. Cette biennale est également une première dans le développement de l'art contemporain en Afrique. Elle permet à de jeunes artistes de vivre leurs rêves en leur offrant l'occasion de montrer leur savoir-faire. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagay.
Cette année, l'une des principales attractions de la Biennale est Papsama Ndiaye. Ce jeune artiste sénégalais en est certes à sa première participation, mais ses tableaux sont déjà devenus des œuvres phares. Papsamba espère que cette biennale va lui offrir plusieurs opportunités dans sa carrière.
La biennale, c'est une grande opportunité. Ça permet d'avoir des liens, des contacts, une ouverture sur le plan international. Ce que l'artiste attend chez lui, c'est-à-dire le sentiment d'autrui, du regardant par rapport à son contexte, sa démarche artistique. Si tellement c'est approuvé, là, on atteint notre objectif en premier lieu sur ça. Avec l'ouverture, l'interconnexion entre les artistes sénégalais et les artistes invités qui proviennent partout du monde, ça fait quelque chose d'intéressant dans notre carrière.
La Biennale de Dakar, c'est également les manifestations d'environnement dites OFF qui regroupent près de 250 projets. Parmi eux, on retrouve le laboratoire Agitar qui permet à plusieurs jeunes Sénégalais et Africains d'exposer leurs talents en espérant attirer le regard des sommités du monde de l'art. Aïken Ramajeli, directeur artistique de Agitar, s'exprime au micro de VOA Afrique.
La Biennale de Dakar, comme tant d'autres biennales, c'est un événement qui a attire beaucoup de gens, des commissaires, des galeristes. Donc pour ceux qui veulent montrer les trucs, c'est une occasion aussi de regrouper beaucoup de gens, de trouver des galeries, des musées pour pouvoir exposer et tant d'autres projets aussi.
Les artistes du laboratoire Agitar ont choisi comme thème la cloche des fourmis. Une manière pour eux de montrer qu'au-delà des objectifs de carrière, l'union des cœurs est la principale force du monde artistique, comme l'explique Aïken Ramajeli.
C'est une question de confiance, c'est une question de pacte et d'honneur. Les moyens pour pouvoir faire tout cela, pour pouvoir réaliser quelque chose de fort, c'est l'union. Et les premiers investissements, c'est notre énergie et notre détermination. Nous, on a eu le soutien du Clicent Unique, la délégation de l'Union Européenne. Mais en laps de temps, un mois, pour pouvoir faire ça, donc il faut être des fourmis. C'est-à-dire être en union, avoir beaucoup de détermination et beaucoup d'énergie.
Cette 13e édition de la Biennale comporte une innovation majeure avec l'ouverture du pavillon sénégalais qui offre une vitrine de choix aux artistes du pays hôte. Pour donner une dimension festive et populaire à la manifestation et favoriser son appropriation par les populations, la Biennale a aussi installé dans chaque commune de Dakar une baraque. Les résidents y sont invités à montrer ce qu'ils définissent eux-mêmes comme étant de l'art. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Et Et bien voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. C'était notre ami Wojniak Wojtek à la technique. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce soir encore une fois. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.